De 19h à 20h, offre-toi un peu de bonheur. Rendez-vous sur le site de Radio G et cliquez pour voter. C'est simple et c'est gratuit. Allez sur le site aujourd'hui. Alors écoute TNT, l'émission de Radio G. De 19h à 20h, offre-toi un peu de bonheur. C'est le moment de se connecter sur le site de Radio G. Sur le bouton stop, vous pouvez appuyer. Vous avez le pouvoir de voter. Alors écoutez MT, l'émission de Radio G. De 19h à 20h, offre-toi un peu de bonheur.
Bonsoir et bienvenue dans mon tiroir. C'est des potes, hein, déjà, dès le départ, là. Bien, l'émission qui donc a des choses à vous dire. Par contre, sont-elles toutes intéressantes? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ce soir avec cette émission interactive où vous donnez votre avis de chez vous en direct, en temps réel, hein, sur le site radio-g.fr. 21e émission en direct. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir, tout le monde.
Bonsoir, Sandra.
Bonsoir.
Bonsoir, Florian.
Bonsoir.
Bonsoir, Joe, qui réalise cette émission.
Bonsoir, Bruno.
Bon, bah, bravo, Joe, pour l'intérim. Hein, c'est bien.
On était tous à l'intérim. Hein,
c'est bien. Puis bravo à tout le monde là pendant que j'étais en vacances la dernière fois.
On a fait un carton.
Oui, c'est ça. Apparemment, je vous ai pas manqué.
Mieux que quand t'étais pas là. Donc bah, c'est vrai. Peut-être qu'il faut comprendre quelque chose.
C'est vrai que les audiences.
Mais bah, il y a eu un 800% à un moment sur un an. Il devait y avoir un monde. Hein.
Ou alors la chronique était vraiment de. Enfin, qui était pas terrible.
Oui, il y avait beaucoup de monde qui nous écoutait pour dire. C'est ça qu'on veut dire.
On verra. J'espère que les chroniques seront mieux ce soir.
La photo m'attend et la photo, ce que la cabine téléphonique est au téléphone.
C'est ça. C'est vrai. Mais t'inquiète pas. Non mais connaissant Florian, sa rubrique sur le photomaton, il va nous la ressortir à un moment donné.
Oh, hein, oui. Peut-être dans cette émission.
Oui, ça se trouve, et en plus.
Restez jusqu'au bout.
Bon, vous êtes tous là sur votre smartphone, vous allez sur le site radio-g.fr, c'est bon. Voilà, vous cliquez sur vote, et puis vous avez un bouton cool, un bouton stop. Donc si les chroniques vous embêtent, vous appuyez sur stop, donc chez vous, hein, bien sûr. Vous pouvez le faire de votre smartphone ou d'un ordinateur. Et puis nous, on voit les résultats en direct. Et comme ça, bien, c'est vous qui avez le pouvoir sur l'émission. Bienvenue dans DMT. Alors pendant mes vacances, je vous ai fait des petits jingles. Donc chacun, vous allez avoir un petit jingle pour vous présenter. Hein, voilà. Comme ça, vous allez dire que je ne vous ai pas manqué. On va commencer avec Flo.
Mais il n'y a pas fini.
Qu'a fait des heures qu'il attend que son test, il en fait le traitement. De la radio, c'est un monument. Il est temps de retrouver Florian. Florian, Florian. Florian, c'est la chronique de Florian. Florian, Florian. C'est magique, il est content.
Il est content.
Florian.
Voilà, il est content.
Il
est bien temps. Alors le tien est moins que Xanax, hein, tu vas voir.
J'imagine que t'as dû dire jeune, du coup je mets un truc hyper patate.
Non, pas jeune, non. Alors, on y va. Alors. Il y a qui est derrière nous. T'as intérêt d'être bon, hein, parce que voilà. Attention. Hein.
On a du public.
L'impression. On y va, on t'écoute.
Alors ce soir, donc, je vous parle du photomaton.
Non.
800% de. Oh non.
T'es un escroc.
Non, pas du tout. Du POG, c'est mieux.
Oui, je me souviens de ça.
Alors
oui.
Le POG, est-ce que vous savez les... Alors vous connaissez tous le POG en fait, le petit. Bah non,
c'est le petit truc en plastique ou carton.
Décris-nous un POG.
Parce que la nouvelle génération, les 2000, ils savent pas.
La description sur internet, c'est petite rondelle de carton illustré ou en plastique qui connaît un pic de popularité dans les cours d'école au milieu des années 90. Mmh. Jusque là, on est tous d'accord. Mais est-ce que vous savez les autres noms du POG?
Un pin s'écrasé.
Ouais, c'est
juste. Tu savais pas, toi, le POG?
La pièce.
Mais si, on pouvait le faire sauter aussi.
D'accord.
Dans les années 90.
Ouais. Du coup, c'est les petits ronds comme ça, là.
D'accord. Ouais. Alors, d'ailleurs, oui, tu sais pas ce que c'est, toi, un POG?
Si, je viens de le dire. D'accord. Je suis 98, d'accord. Donc, dans les années 2000, on avait les POG aussi, d'accord. On avait les billes.
D'accord.
Ok. C'est vrai. C'était effectivement sur le.
Macadam.
Ça se finissait un petit peu comme.
Oui, c'est sur la fin, je suis d'accord. Oui, bien sûr.
Alors, ça s'appelle aussi les bouchons. À la base,
ah bon,
à la base, en fait, l'origine du POG, ce sont des bouchons.
Ça, c'est ceux qui n'avaient pas l'argent pour acheter les vrais POG.
Je sais pas. Ce sont des bouchons qui viennent de l'île d'Hawaï. Et ça a été, ça a été utilisé dans les années 20, en fait. C'est les gamins qui réutilisaient les bouchons de bouteilles de la boisson qui s'appelait POG.
Ah, d'accord.
Ah, okay. POG. C'est une boisson à hawaïenne, et du coup, il y avait des bouchons, en fait, et du coup, ils jouaient avec ces bouchons-là.
D'accord.
Et donc, du coup, il y a un Canadien qui s'est dit, tiens, c'est sympa, donc je vais envoyer plein de bouchons comme ça à Hawaï, du coup, pour faire le business, et du coup, ça a commencé comme ça. Alors ça, c'est une version d'origine. Il y a une deuxième version qui serait un jeu japonais, le Menko, donc qui serait un jeu de cartes, en fait, japonais du XVIIe siècle.
Ah.
Donc, il y a les deux versions de
ça. Va falloir demander à Sandra, c'est elle l'experte
Mais
des jeux de cartes.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le POG revient à la mode. En même temps, il avait été oublié, donc forcément, il revient dans les années 90. D'abord à Hawaï, du coup, on remet ça à la mode. Les enfants rejouent à ça à Hawaï, et puis ça gagne la côte ouest des États-Unis. Donc d'abord la Californie, Texas, Oregon, puis après ça se diffuse.
Est-ce que pour les auditeurs qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer comment on jouait au POG ?
Bien sûr, j'ai la règle.
Ah.
Alors, ça se joue à deux, c'est mieux quand même pour avoir un petit côté challenge et défi, mais on peut jouer à bien plus que deux de toute façon. Et l'idée, c'est juste d'empiler au minimum un POG. Donc,
empiler, ça veut dire
un POG, deux POG du coup. Sol.
Oui.
Bah, un ou plusieurs.
Bon, alors on en pose un sur la table ou sur le sol.
On pose un sur la table, ouais, face cachée du coup.
D'accord.
L'idée, t'as un autre POG plus gros,
ouais.
plus solide, avec lequel tu vas.
Taper sur le POG.
Il faut taper sur le POG en fait. Il faut presque le lancer. Il faut pas taper avec sa main. Il faut presque le lancer et taper dessus pour qu'il se retourne. Ouais.
D'accord.
Pour que le POG qui est au sol se retourne, voire.
Il rebondisse et voilà. Ça se retourne.
Donc tu peux faire des piles de plusieurs POG. Et en fait, plus il y a de POG qui est retourné sur un même mouvement, et en fait, tu gagnes les POG.
D'accord.
Donc,
face découverte.
Mais tu échanges les POG avec les gens.
Voilà. Alors, il y a le côté collection aussi où tu échanges les POG avec les gens, ou alors tu mets en compétition du coup tes POG en
disant.
Mais
du coup, il faut le balancer avec une certaine force quand même.
Oui, effectivement, oui. Il faut quand même arriver à retourner. C'est pas si facile, hein, des fois. Enfin.
Ouais.
Faut vraiment la force. Voilà. C'est ça le.
C'est ça le POG.
C'est vraiment tout simple.
C'est simple.
Tout bête, mais c'est un succès absolument incroyable. Donc, d'abord aux États-Unis, puisque la. Il y a la marque, en fait, ou le label World POG Federation.
Ah, carrément.
Fédération mondiale du POG. C'est quand même très américain, du coup, comme marque. Et donc, ils lancent la commercialisation du POG. Et ça se distribue même à McDo, puisqu'après, les marques s'en emparent et font leur propre POG.
D'accord. Oh, pardon, excusez-moi.
Tu me fais peur. J'étais sur mon tel en même temps, je me suis dit, merde, c'est moi qui l'ai lancé.
Je le réveille.
Ah, c'est gentil, c'est merci, c'est intéressant, mais du coup, je continue.
Oui.
Donc voilà, donc il y a les marques aussi, donc les marques, en fait, ça devient des cadeaux publicitaires, en fait.
Oui, c'est plus pratique, c'est facile. Voilà.
C'est
carton,
comme les pins à l'époque, on en a parlé la dernière fois.
Ouais.
Comme plein d'autres éléments, en fait, ou les porte-clés qu'on a parlé aussi la dernière fois. Voilà, ça devient vraiment, vraiment ça. Mais la durée de vie, quand même, est assez courte puisque, donc ça démarre en, il s'agit vers 92-93. Okay. C'est vraiment bien dans les. Et voilà. Et du coup, ça se termine. Alors, la World POG Federation ferme en 95.
Ah oui, d'accord.
Et les Canadiens, en fait, il y a une boîte canadienne qui avait repris aussi le truc, et elle ferme en 97. Donc voilà.
C'est, d'accord.
C'est sur 5 ans.
Très
en fait,
éphémère.
C'est sur 5 ans, ça a été vraiment une diffusion assez incroyable. Et en France, alors nous, quand ça se termine outre-Atlantique, bah, du coup, on reprend le concept
on
en France.
On se réveille.
Puisqu'en 97, il y a la société Avimage, je ne sais pas si vous connaissez, reprend le POG, donc sous licence.
Ouais.
Et Avimage, c'est ceux qui avaient fait les crados.
Ah,
oui.
les petites figurines morves et machin.
Les crados, donc après, voilà. Et donc ces POG-là, en fait, ils sont vendus en bureau de tabac, dans les grandes surfaces, sous forme de petites pochettes, comme aujourd'hui les panini, hein, les pochettes qu'on achète, ou d'autres, ou les Pokémon aussi, du coup. Donc des pochettes avec 5 ou 6 POG à l'intérieur, et surtout, quand même, un élément un peu indispensable pour jouer, c'est le Kini.
Le Kini.
Il faut en avoir deux.
Un bikini, il est beau celui-là, je l'ai.
Et en fait, le Kini, c'est le POG un peu plus épais, souvent en plastique.
Ah avec oui, coup, donc on peut balancer, c'est lui qui fait rigide, tourner.
Voilà,
d'accord.
Qui fait que ça retourne les POG.
Genre okay. De cochonnet du POG.
Mais là, tu nous en parles. Ça existe encore aujourd'hui, du coup, on en vend les
alors
gens.
Je vais.
Parce qu'on joue, parce qu'on en vend, il y a de la collection. Mais...
Donc, je vous ai parlé des marques la dernière fois qui qui reprenait en fait les versions Pog. Donc vous aviez la marque Smith, en fait, c'est Lay's aujourd'hui, qui a fait ses propres Pog.
Lay's les chips ?
Oui, Lay's les chips, qui a fait ses propres Pog. Alors eux, ils étaient en plastique avec les Looney Tunes dessus.
D'accord. Si tu joues au Pog avec les chips, ça craque très vite, quoi. C'est pas très fun.
Ça marche moins bien. Donc il y a plusieurs variantes comme ça, voilà, de Pog. Et vous avez aussi des Pog avec des petites encoches. Je sais pas si vous avez connu ça, mais moi j'en ai eu en plastique.
Des encoches.
Et donc les Pog étaient, alors, ils étaient pas ronds, ils étaient
hexagonaux
ou même octogonaux presque. Ouais. Et en fait, il y avait des petites encoches et ça permettait d'en mettre deux et de les lancer en fait.
Ah oui, d'accord. Il y avait des techniques
de jouer différemment.
Ça serait vécu, tu y as joué à ça.
Ok.
Ouais. Et ben ceux-là,
moi j'ai jamais joué au Pog.
Ah si, au Pog j'ai joué beaucoup dans la cour.
Toi, t'as pas joué au Pog?
Non. Non, je suis passé à côté. Je suis trop jeune.
L'autre.
Et donc, du coup, les Pog ont été diffusés dans 30 pays différents. Et est-ce que vous savez le nombre de Pog qui ont été vendus entre 1994 et 1998?
Oui, c'était
un milliard.
C'était 750
millions. 750
millions. Je pense que c'est beaucoup plus.
Moi, j'irais un milliard.
Plus, on va faire le juste.
C'est beaucoup plus. 10 milliards.
10 milliards. Eh bien, c'est 10 milliards de Pog.
J'allais dire, mais il nous a dit de faire un...
10 milliards. Sur 4 ans.
Ah ouais.
Sur 4 ans, dans 30 pays différents.
Et là, partout, alors.
T'imagines si ça avait été plus long que le phénomène éphémère?
C'est clair. Et du carton, et du plastique, et machin.
Ouais, au niveau...
Et sur la première année de vente en France, des Pog, ils ont écoulé 40 millions de pochettes. Et comme il y en a 5 à 6 par
pochette.
Ah oui,
c'est des boosters. Oui.
Vous multipliez, donc du coup, ça
bonjour
fait.
Bonjour la pollution.
Ça fait 200 millions de Pog en France.
C'est de la pollution.
En un an. Oh. C'est de la pollution, tout à fait. Et aujourd'hui, est-ce que le Pog existe encore?
Voilà.
Ah.
Eh bien, oui.
C'est les qui nous disent non.
Alors,
bonsoir.
Il y a des Pog qui sont encore vendus pour les collectionneurs un peu sur les sites. Alors, ça vaut pas non plus des sommes.
Ah ouais, fortune. Ouais.
Hein, non, ça marche pas.
Ça vaut pas grand chose, honnêtement.
Maintenant, c'est quoi? C'est un jeu vidéo.
Et donc aujourd'hui, ça a été relancé par la marque Asmodée. Donc des petits jeux, en fait, c'est une marque de jeux de société.
D'accord.
Donc c'était en 2021, donc il y a 3 ans. Voilà, donc c'est relancé, donc c'est pareil, c'est des pochettes, t'achètes.
On pourra jouer au Pog.
Alors, la diffusion, je ne sais pas trop si dans les cours d'école ça y est ou pas.
On verra.
Le bémol, c'est que les Pokémon ont pris le dessus sur les Pog.
Oui, effectivement.
Ouais, mais ça peut être autre chose. Tu peux en avoir des Pog à l'effigie de Pokémon, à la limite, tu vois. Mais bon, je suis pas sûr que la hype Pog soit vraiment.
Ouais, non plus. Bon, en tout cas, t'arrivais à 50%, t'arrivais à la fin de ta chronique. Bravo.
Merci.
C'était vraiment. Pourquoi les Cébales, c'était intéressant. Alors, en tout cas, on l'a entendu.
C'était vraiment très intéressant.
Merci. Maintenant, c'est bon.
Non, c'était ma faute, pardon.
Voilà. Donc, on continue maintenant. Alors, pareil, un jingle, forcément, pour la deuxième personne. Et la deuxième personne, c'est Sandra.
Elle est Tudor, collectionneuse des poules à neige aux agrafes chinées jusque dans la toundra. C'est la chronique de Sandra. Sandra, Sandra, c'est la chronique de Sandra, Sandra, Sandra. À coup sûr, elle nous surprendra.
Ça te va?
Waouh!
Très année, c'est épisode de Friends.
Ouais,
très...
c'est ça.
Un petit peu. Alors, on parle de quoi ce soir?
Alors, ce soir, dans mon tiroir, j'ai trouvé un jeu de cartes. Mais pas n'importe lequel, un jeu des 7 familles.
Ah!
Voilà, parce que vous savez que j'ai plein de jeux de cartes, effectivement. Hein.
Oui, ça aurait été un jeu classique. Qui a mis... T'as déjà un stop? Oh non,
non.
Elle a que 25%, c'est bon, on y va.
Donc, d'où vient l'origine de ce jeu? Il est apparu en 1843 avec l'illustratrice Anne Wells, avec seulement 4 familles au départ, constituées de 6 personnes. Donc, on reconnaît un jeu ancien au fait qu'au lieu du grand-père ou du grand-mère...
Ou de la grand-mère, ouais.
En fait, il est inscrit l'aïeul sur les cartes. L'aïeul avec...
D'accord. L'ancêtre, l'aïeul. Voilà. D'accord.
Et au dos de la carte, il n'y a pas de dessin. Voilà.
Ah, c'est une carte blanche tout court, quoi. Il n'y a rien.
Il n'y a pas les petits motifs qu'il y a
d'accord,
d'habitude.
D'accord, ok.
Donc, vous avez les 6 personnes, le fils, la fille, le père, la mère, le grand-père et la grand-mère. Ou l'aïeul.
Amen. D'accord, ok.
D'ailleurs, on ne parle pas de jeu des 7 familles au départ. Il s'agit du jeu Dr. Busby aux USA.
Hein? Un docteur.
Voilà, c'est le jeu en fait, il s'appelait comme ça, Docteur Busby.
D'accord.
Il est apparu aux USA. Ensuite, en 1960, un autre jeu similaire prend son envol, Happy Families.
Ça se rapproche
donc,
déjà.
Donc c'est Heureuse Famille, voilà. Au nombre de 11 familles cette fois. Donc là, c'était à Londres. Puis en France, le jeu des 7 familles arrive en 1876 avec l'illustrateur André Gilles, qui est un dessinateur de presse. Ce qui peut expliquer les caricatures que l'on voit justement sur les jeux anciens.
D'accord.
Donc le premier jeu français est une caricature d'abord de la hiérarchie sociale.
Ah oui.
On représente par exemple surtout la bourgeoisie, les ministres, les avocats, ou alors, pour faire un contraste dans le jeu, les voleurs, les faussaires, etc.
Je rigole, je dis, parce que vas-y, tu peux dire ce qui est,
on a quelqu'un sur le chat, c'est Rémi qui nous dit que moi, je ne peux pas y jouer à ce jeu de cartes. Je pense que c'est bien évidemment.
C'est Rémi, sans famille.
Voilà.
Pas mal. On a les auditeurs qu'on mérite.
Ah, c'était mon dessin animé préféré. Allez, c'est vrai en plus.
Et ton jeu de cartes préféré aussi.
Non. Ce jeu s'adressait en fait plutôt aux adultes, justement, puisqu'il y avait beaucoup de caricatures. Et on va dire que ça ressemble un peu à une fable politique comme les fables de La Fontaine, en fait. Les jeux de cartes, à l'époque.
Ah bon?
Ah oui, il y a beaucoup de caricatures.
Et d'accord. Dans le dessin, il fallait chercher les petits dessins.
Souvent, il y a des caricatures avec des animaux. Les hommes politiques se transforment en animaux.
D'accord.
En animal, etc.
Oui, mais c'était pas des caricatures qui étaient obscènes.
C'était pas destiné aux enfants au début.
Oui, mais est-ce qu'il y avait des trucs obscènes, genre justement comme c'était des caricatures, vu que c'était
le père
pas
et la mère.
Bah non, mais je sais pas.
Pas forcément, mais c'était.
C'était un jeu pour les adultes, quoi.
Ouais.
Alors que ça on pouvait jouer avec les enfants aussi, parce que les règles sont assez simples quand même.
Oui, mais plutôt niveau des dessins, c'était plus pour adultes.
Voilà, d'accord, c'est ça que oui.
Très bien.
Et ensuite, effectivement, c'est devenu un succès pour les enfants, parce qu'on s'est dit que c'était un jeu éducatif qui permettait d'apprendre les nombres, de mémoriser, et d'apprendre les métiers, parce que les jeux anciens, c'était surtout les métiers au début. Et d'ailleurs, c'est justement le jeu des 7 familles, représentatif de l'évolution de la société, parce que par exemple, on voit l'apparition de nouveaux métiers qui n'étaient pas représentés avant. Comme par exemple
informaticien.
Par exemple, ça pourrait. mais les pêcheurs, par exemple, les pêcheurs, les poissonniers, parce que par exemple, tout le monde ne connaissait pas la mer avant les années 1930. C'est cool.
D'accord.
On voit aussi l'émergence des cartes de famille sur le sport, les voyages. Vous voyez.
Ah,
vous n'avez pas pris congé.
C'est pas normalisé. Au niveau des jeux de cartes, d'un jeu de cartes à l'autre, on n'a pas les mêmes 7 familles en fait. C'est les mêmes règles, mais on peut en trouver.
Ah oui, les thèmes sont tout à fait différents.
Plein de différents.
Mais surtout par rapport aux époques, en fait, les métiers vont changer. On va découvrir des nouveaux sports, des nouvelles, les voyages et aussi les voyages sont peu représentés, mais aussi c'était très caricaturé, voire je sais pas comment
politique.
On va expliquer. Oui, je l'ai pas dit, mais un peu connoté quoi. Ça pouvait être connoté, vous voyez.
Ah oui, d'accord.
Il y a un peu l'idée.
Non.
Voilà, c'est ça, exactement.
tu veux dire, oui, c'est racisé.
Oui, voilà.
D'accord,
voilà.
Okay. Très bien.
Voilà, ce qui n'est plus maintenant.
Et c'est quoi la règle de cette famille? Moi, je ne sais plus jouer à ça.
Bah, tu prends un POG et puis tu balances sur la carte.
Bonnes cartes. À l'époque où ils étaient les métiers des avocats et tout, ils gagnaient plus facilement que les autres métiers, d'accord?
Ah bon?
Non.
On va peut-être laisser...
Il faut que tu reconstitues une famille entière.
Oui,
c'est ça.
Tout le monde a plein de gens de plusieurs familles dans les mains.
Mais il faut piocher.
Et tu demandes aux voisins.
Je crois que tu connais
ton voisin, dans la famille, je sais pas.
Mais d'ailleurs, maintenant...
Je demande,
par exemple, là, j'ai une amie qui a acheté un jeu des 7 familles il n'y a pas longtemps, et c'était sur des monuments de Lille, quoi. Vous voyez, ça permet d'apprendre, en fait...
Il n'y a plus de famille, du coup.
Sur les monuments...
C'est des catégories, en fait.
En fait, pour certains, ça permet d'apprendre, en fait.
Effectivement.
D'accord.
Alors, on ajoute aussi des fantaisies dans les jeux traditionnels, aux jeux traditionnels, comme faire un puzzle, vous savez, c'est-à-dire les 6 personnages.
Ah oui, quand on les met à la suite, ça fait une scénette, en fait.
D'accord.
Oui, d'accord.
C'est un si petit.
Et le jeu de cette famille devient ensuite, à partir des années 60, 70, l'attrait des publicitaires pour la pub et des artistes qui veulent illustrer le jeu.
D'accord.
Voilà, donc... c'est terminé.
Juste à la fin.
Voilà.
Ah bah t'as réussi à le faire tout quand même.
Je voulais juste terminer par ma petite blague, entre guillemets. C'est-à-dire
bah,
4 ou 5, il nous manque encore juste Caroline pour faire la famille des petits.
Ça c'est vrai. Mais ce serait pour une prochaine fois. Allez, on continue avec maintenant le jingle d'Olivier.
Il est grand fan de cinéma.
ça fait années 80.
Oui, un petit peu, ouais.
Et du coup, aujourd'hui, tu nous parles de mode.
Non, je vais vous parler du Festival de Cannes, ma deuxième partie.
Ah, pourquoi? Parce que qu'est-ce que t'as retrouvé dans ta...
Ça commence aujourd'hui. J'ai retrouvé une canne.
Il l'a eu en 3 secondes. Franchement, bravo.
T'as retrouvé une canne dans ton tiroir.
Une canne, ben oui, pour mes vidéos.
D'accord, ouais. On va changer de concept d'émission parce que là, c'est pas du tout.
Alors, on va sortir de la sélection officielle, de la compétition, en vous disant qu'en fait, dans le Festival de Cannes, ça regroupe plusieurs sélections. Il y a plusieurs festivals
plusieurs
dans,
catégories.
Dans le festival.
D'accord.
Hein? Ah oui, différents, c'est à part, quoi. D'accord, en marche.
Okay. Alors, notamment, alors c'est, en fait, c'est assez historique. Il faut savoir qu'en 1961, il y avait le syndicat des critiques de cinéma français qui avait présenté un film comme ça pendant le Festival de Cannes. Il y a eu tellement de succès pour la diffusion de ce film que le Festival de Cannes leur a dit « Ok, ben banco, on va vous offrir votre propre sélection. Vous allez proposer des films l'année d'après, donc en 1962, vous allez nous faire découvrir des films. »
D'accord.
En fait, cette compétition, elle existe depuis donc 62 ans, et ça s'appelle la Semaine de la Critique, et ça permet de découvrir de jeunes talents. C'est avant tout des premiers films ou des deuxièmes films de réalisateurs, donc quasiment inconnus.
Mais alors du coup, ça n'a rien, c'est pas choisi par ceux qui organisent le Festival
non,
de Cannes.
Non, choisi vraiment, c'est vraiment une sélection
différente. Et le jury est pareil, différent.
Oui, c'est un jury différent.
D'accord.
Alors, ça a notamment révélé Jacques Audiard, François Ozon ou Wong Kar-wai. Donc c'est voilà.
C'est, d'accord. C'est un peu comme premier plan.
Un peu comme premier plan, exactement.
D'accord.
Après, en 1968, il y a eu quand même le Festival de Cannes qui a été annulé. Il y a eu vraiment, pas des émeutes, mais il y a beaucoup de gens comme Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Lelouch, qui se sont insurgés contre le Festival de Cannes, qu'ont même qui sont rentrés dans le festival, dans les salles, et qui ont bloqué le festival. Il a dû être annulé. L'idée, c'était de dénoncer les fastes de la cérémonie. Ils voulaient donner une image plus moderne, ouverte au public, et surtout, ils voulaient une sélection qui ne soit pas compétitive. C'était un petit peu la nouvelle vague.
D'accord.
Et donc, au final, ils ont créé leur propre quinzaine, en appelant ça la quinzaine des réalisateurs.
Et c'est maintenant officiel.
C'est créé depuis 69. Et même récemment, ils l'ont changé pour être plus inclusif. Ils l'ont appelé quinzaine des cinéastes. Pour éviter les réalisateurs, ça faisait trop masculin.
Et c'est eux qui choisissent. Ce sont des réalisateurs qui choisissent les films, du coup.
Alors, ils choisissent. Non. Oui. Oui, c'est avant tout, c'est des réalisateurs de films qui choisissent des films.
D'accord.
Voilà. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Et même les films sont projetés au public cannois. Vous, comme toi, comme moi, on peut y aller voir les films. Ils sont même retransmis à Paris, au Forum des Images, toujours quelques semaines après la diffusion pendant le Festival de Cannes. Et puis ils rendent aussi hommage à un cinéaste qui a marqué l'histoire du cinéma. Et c'est le prix, ça s'appelle le Carrosse d'Or.
Donc il y a des prix quand même.
Oui. Alors il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, mais bon, il y a quand même il y a quand même des gens qui remettent un prix. Mais c'est pas, voilà.
Il n'y a pas de prix.
César d'honneur, quoi.
Il n'y a pas de prix, mais il y a quand même un prix.
D'accord.
Il n'est pas remis par les réalisateurs.
D'accord.
Ils ont quand même voulu remettre un prix. Mais c'est quand même un très, très gros concurrent à, du coup, la sélection officielle. Parce qu'en fait, ils piquent des films et souvent, on a des pépites qui sont jouées dans la quinzaine des cinéastes.
Ça n'a jamais arrivé qu'il y ait les mêmes films qui étaient pris dans les deux.
Non. Ça s'est bien fait quand même, quoi. Après, en 78, là, du coup, la sélection officielle, donc le vrai Festival de Cannes, ils ont décidé de faire une petite sélection parallèle. Ça s'appelle la sélection Un Certain Regard. Et donc là, ça présente des films plus originaux, plus audacieux, avec des cinéastes quand même inconnus,
c'est
peu
moins
connus.
Qu'on puisse dire, oui. C'est spécial quand même, les films d'Un Certain Regard.
Pour vous dire un petit peu l'ambiance, il y a quand même eu L'Inconnu du Lac, d'Alain Giroudy, qui a été présenté à Un Certain Regard. Mmh. Donc c'était quand même un film un peu vraiment gay, avec vraiment
c'est un certain regard, on voit tout, ça c'est sûr,
humilité frontale.
Le regard
Xavier Dolan, il a eu droit à la diffuser Laurence Anyways, donc un film sur les personnes trans, donc toujours des thèmes aussi un peu queer, un peu voilà, moins grand public que le Festival de Cannes, quoi. Et ça a notamment aussi révélé Ruben Östlund, qui a eu deux Palmes d'Or par la suite. Il avait diffusé son film Snow Therapy. Et puis, à côté de la Palme d'Or, de quelques prix, on a aussi d'autres prix qui sont qu'on connaît pas, comme notamment la Caméra d'Or. La Caméra d'Or, ça remet la Caméra d'Or, c'est le meilleur premier film. Il y a un jury qui désigne le meilleur premier film de toutes les sélections confondues.
Ok.
On a aussi la Queer Palme. Donc là, c'est il récompense, à travers tous les films qui sont présentés à Cannes, le meilleur film LGBTQIA+.
Mm-hmm.
Alors notamment pour vous dire, depuis 10 ans là, il y a quand même eu de récompenser le film Pride, le film de Carole, connu, hein, film lesbien, 120 battements par minute, le film Girl sur une femme trans, et puis aussi Portrait d'une jeune fille en feu, le film de Sien Chama. Donc vraiment que des films qui ont marqué le cinéma LGBT. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, il existe un prix du jury œcuménique. Donc là, ce sont des chrétiens qui sont engagés dans le cinéma, okay, et qui remettent le film le plus, on va dire, le plus humain, le plus sensible, le plus...
Ah oui, rien à voir avec la religion.
Le plus proche des valeurs, des valeurs chrétiennes.
Ouais, ils sont pas trop fans du cinéma LGBT,
oui, je pense. Dire qu'ils ne récompensent pas, ouais. C'est rare, quoi. Ils avaient récompensé notamment le film, je ne sais plus le nom, mais sur...
Alléluia, mes frères, Bernadette, machin, toutes celles qui sont les
races. Qui avait été tué en Algérie, là.
Ah oui,
Sibérie, comment s'appelle?
Je sais plus le nom.
Monastère de Tibérine. Bref. Le film,
il y a aussi le prix.
Jean-Michel, à peu près, il va nous dire le
prix Fipreski. Film prix Fipreski, c'est des critiques internationaux, là, qui remettent un prix.
Fipreski, c'est le nom d'Arizona. Fipreski, pourquoi
c'est? Non, Fipreski, ça doit dire, c'est un acronyme, je pense. Ça d'accord, quelque okay. chose. Et puis, récemment, on a la Palme Dog. Alors, un jeu de mots avec Palme d'Or, la Palme Dog. Ça récompense
pour
le meilleur chien, qui soit vivant ou fictif.
D'accord. Alors,
l'an dernier, il y a eu Snoop, qui joue dans Anatomie d'une chute.
Ouais.
On a eu aussi le petit chien, Huggy, dans The Artist.
Ok.
Jean Dujardin, il est avec un petit chien.
C'est toujours un chien, en fait. On
et puis surtout, il a récompensé Doug, c'est le petit chien, dans le dessin animé Pixar, là-haut.
Ah, okay. Oui, Doug. Oui,
bien sûr. Qui suit le grand-père. Et en fait, il a obtenu la Palme Dog.
Ouais, donc,
ça,
ouais.
Sans cesse, on a des prix qui se rajoutent.
Il n'y a pas les hot-dogs aussi qui sont à 15?
Non, c'est l'hot dog.
Non?
Alors, oui, ça n'existe plus, mais oui, effectivement.
Ah, ça n'existe plus.
Les outdoors, oui, c'était meilleur film porno. Oui.
C'est ça, ah,
oui,
c'était ça. Aussi à Cannes.
Oui, c'était remis à Cannes. Il y a d'accord. plein de choses. Hein,
alors, je crois qu'il y a en plus, depuis quelques années, un truc sur les talents du web, sur les meilleures vidéos, les trucs comme ça, ou sur des qui mettent en avant des créateurs du
pendant
web.
Pendant le festival aussi.
Oui, aussi, parce que maintenant, il y a des créateurs du web qui sont invités au festival, ouais. Ce qui est assez
bien.
Récent.
Très bien. Et Energy Music Awards à Cannes aussi.
Oui, mais ça.
Oui,
mais
si tu veux, alors là, tout ce qui se passe à Cannes.
Oui, il y a plein de choses. Ok, bravo.
C'est vraiment très intéressant.
Eh ben, 25%, c'est bien.
C'est bien.
Ça résiste bien. Mmh. Allez, on va découvrir maintenant le jingle de Joe.
Quand tu veux, il remplace Bruno. Derrière les manettes, c'est un pro. Il est chez lui dans le studio. C'est le moment d'écouter.
Alors je te jure que premier degré, j'aime bien, c'est très très cool.
Ah, très bien ton jingle. Alors.
Bon, on rappelle qu'un jingle c'est censé faire 5 secondes, là tu nous as fait tous des jingles de 30 secondes. Donc
oui, voilà.
Des annonces.
Celui-là dit dans 5 minutes on sera moins idiot, est-ce que c'est vrai ou pas? On va le savoir.
Eh ben, on va le savoir aujourd'hui parce que j'ai retrouvé dans mon tiroir, je voulais faire une vanne, non je peux pas la rejeter, non je vais mettre le ticket de ciné.
Un ticket de ciné, oui, d'accord.
Comme okay. d'hab, ouais.
Sinon, donc tu parles d'un film, donc du coup.
Donc je parle effectivement pour changer d'un film, parce que je sais pas pourquoi, les dernières chroniques, je parle tout le temps de films, parce qu'il y a beaucoup de films qui sont sympas en ce moment. Et notamment, je suis allé voir Un petit truc en plus. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Ah, oui.
Moi, je connais que le titre.
Artus.
Et voilà, c'est le premier film réalisé par l'humoriste Artus. Et donc il est sorti le 1er mai dernier. Alors déjà là, sur ses entrées, il a fait, je crois, 2 millions d'entrées récemment.
Yeah, ouais, il va dépasser les 2 millions, oui.
Et il a fait le deuxième meilleur démarrage du cinéma français derrière Bienvenue chez Ch'ti.
Il a dépassé Dune en plus.
Il a dépassé Dune.
Oui.
En démarrage.
En français.
Oui, j'ai français. Oui, d'accord.
Bah oui.
Oui, pour le coup, oui. Ok.
Quand même, ça parle de quoi?
Mais alors, de quoi ça parle? Donc, du coup, c'est Artus qui joue le rôle de Polo avec son père, qui s'appelle La Fraise, joué par Clovis Cornillac. Et en fait, c'est deux braqueurs. Qui viennent de rafler une bijouterie et qui doivent s'enfuir voilà,
ouais.
Dans un quartier qui est un peu cerné par la police et il se trouve qu'il y a un bus qui va emmener des personnes qui ont des déficiences ou des handicaps mentaux et ils se retrouvent un petit peu embarqués là-dedans parce que le groupe attendait une personne donc Sylvain et le personnage d'Artus arrive et on le prend pour cette personne qui manque dans le bus. Et Clovis Cornillac, qui est à côté, il se fait passer pour son éducateur. Et ils vont être emmenés comme ça avec le bus, qui va leur permettre à eux deux de s'enfuir de la scène de crime, on va dire, du lieu où il y avait toute la police. Et ils vont se retrouver un petit peu embarqués dans ce séjour de vacances avec, je crois qu'il y a une dizaine de personnes. Donc, il y a des personnes qui s'occupent des personnes à déficience et handicap mentaux et les personnes handicapées mentaux.
C'est eux qui ont des petits trucs en plus.
Voilà, c'est ça. Le petit truc en plus, c'est ça. Alors, il faut dire que les acteurs sont véritablement handicapés. C'est des personnes que Artus avait rencontrées et connaît bien, et il voulait vraiment prendre des personnes qui avaient vraiment ces handicaps plutôt que de prendre des acteurs qui le faisaient. Donc du coup, Artus lui va se faire passer pour un handicapé mental, sauf que au final, les autres handicapés mentaux se rendent bien compte.
Il va se faire griller.
Ouais, il va très vite se faire griller. Il va vraiment très vite se faire griller, mais ils vont pas le dénoncer parce qu'ils vont avoir besoin de lui pour faire certaines choses qui sont plus dures pour eux. C'est-à-dire, par exemple, il y en a un qui est amoureux d'une autre pensionnaire et il n'ose pas lui dire. Et en fait, il va demander à Artus de le dire à sa place ou alors de lui trouver un petit cadeau. Voilà. C'est des petites choses qui, en fait, vont juste rapprocher ces deux personnages qui sont La Fraise et Polo. Ça va les rapprocher de ce groupe dont ils avaient absolument, ils avaient aucun lien. Ils connaissaient pas du tout ce monde-là. Et on va découvrir un côté vraiment très humain, très chaleureux. C'est vraiment, je pense, le point fort du film. C'est le côté, humain. Alors que, autant le côté Polo, le personnage de Polo, pardon, on sent qu'il a des faiblesses, on sent qu'il peut être attiré par ça parce que il a de la tendresse, etc. Que le personnage de La Fraise, lui, c'est un gangster, c'est le gangster classique. Dès qu'il peut, il s'éloigne du groupe pour essayer d'appeler un contact et trouver une façon de s'en sortir. Sauf que au final, pareil, il va se retrouver coincé, donc il va s'attendrir un petit peu lui aussi.
On ne spoil pas, même si on s'attend.
À chaque fois, tu me dis, on ne spoil pas. Je dis vraiment pas tout, mais voilà, l'intérêt, c'est vraiment de découvrir aussi comment vivent ces personnes dont on a peu d'informations souvent. Et donc voilà, c'est vraiment un film qui est très beau, je trouve. Il y a beaucoup d'émotions, même.
Ils sont à Cannes, je crois.
Oui, tout à fait. Ouais, je pensais que t'allais en parler, mais
mini scandale en fait.
Oui, oui. C'est bon. LVMH a.
Ah, c'est bon.
Mais c'est bon.
En fait, aucune marque de vêtements qui a voulu leur prêter des vêtements pour monter des marques.
C'est marrant, scandale et LVMH dans la même phrase. Bref.
Et c'est bon, ils auront des vêtements de marque comme tout le monde.
Formidable. Et donc voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce film pour le côté très 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 chaleureux, très humain qui véhicule. C'est le premier film d'Artus et franchement, je pense que c'est vraiment un gros succès et je pense qu'il va nous permettre de voir de nouveaux films dans la comédie française au plus tard.
Enfin, eh bien, jingle. Oh là là, c'est voilà, c'est parfait.
Et il y a ça. Jonathan sur le chat qui nous dit bonsoir.
Ah,
bonsoir
à lui. Bonsoir.
Qu'est-ce qu'on mange?
Quand est-ce qu'on mange ça? Dans quelques minutes, on refouillera dans le tiroir, mais avant, on va jouer au Graal. Alors, le Graal, c'est le podcast qui vous fait découvrir en deux minutes des films, des séries et des musiques. Ce soir, c'est une série qu'il faut retrouver. Elle a révolutionné un peu le genre par sa construction étonnante. Écoutez bien, et vous pouvez répondre, bien sûr, sur le chat. Salut, partons à la rencontre d'une série. À l'aide d'indices, vous avez deux minutes pour retrouver le titre. Soyez attentifs à ce que va vous raconter la voix clonée française du personnage principal. Serez-vous le plus rapide pour découvrir le nom de cette série? C'est parti.
Vous vous demandez ce que c'est que ma vie? Vous savez, c'est comme si chaque jour était une course contre la montre. Une course où l'horloge ne s'arrête jamais de clignoter en rouge. C'est une urgence constante, un enchaînement incessant de retournements de situation. Mais je m'y suis habitué parce que c'est ce que je fais de mieux. L'urgence, c'est mon pain quotidien. Les complots, les conspirations, les menaces terroristes, ce sont les ingrédients de mon quotidien. Vous vous demandez pourquoi je garde mon calme? Parce que je n'ai pas d'autre choix. Chaque saison de ma vie a eu son thème distinct. Il y a eu celle où je devais empêcher une attaque nucléaire, celle où je devais déjouer un virus mortel, et bien sûr, celle où j'ai dû sauver le président d'une tentative d'assassinat. C'est juste un autre jour au bureau pour moi. Alors, si vous voulez vivre l'adrénaline à l'état pur, si vous voulez sentir votre pouls s'accélérer, suivez-moi. Dans mon histoire d'un jour, il n'y a jamais de temps mort. Il y a toujours une solution. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. L'horloge tourne, mais je tourne plus vite.
Jack Bauer vous a-t-il fait découvrir cette série à suspense de 2001? Je vous laisse encore quelques secondes.
il fallait découvrir la série 24 heures chrono. La voix que vous avez entendue est la voix française de Jacques Bauer, Patrick Béthune. À bientôt pour un nouveau Graal.
Cette journée est la plus longue de ma vie.
C'était le Graal à retrouver sur radio-g.fr, rubrique podcast plus des quelques fois dans Topette. Bravo à ceux autour de la table qui ouais. ont trouvé. Et puis bravo si chez vous, vous avez trouvé également cette série. Vous êtes toujours dans DMT. Dans un instant, on retrouvera une chronique de Joe. Mais pour l'instant, un peu de musique. Qui a regardé l'Eurovision ce week-end?
Oui.
Ah, j'ai pas... l'Eurovision, tout le monde? Non, t'as vu? Ah, voilà.
J'ai vu qu'il avait gagné. Mais...
Ben oui, la France a bien failli gagner avec la prestation de Slimane. Vous les avez aimés? C'était bien?
Ouais.
J'ai bien aimé la Finlande. Et l'Espagne.
On te demande pas tes voyages.
C'est celui qui dansait.
Non, mais c'est pas une blague, j'ai bien aimé.
Marie-Thérèse, j'aimais bien aussi.
Bon, très bien. Mais c'est la Suisse qui a gagné, qui a présenté un artiste assez talentueux. Son vrai nom, c'est Nemo Bettler, le gagnant 2024 de l'Eurovision, qui est âgé de 25 ans et a vu le jour dans le canton de Berne, en Suisse.
Dans l'eau.
Littéralement.
L'interprète de The Code n'est pas du tout un débutant, hein, malgré son jeune âge. En effet, à l'âge de 15 ans, Nemo avait participé à la version suisse de La France, un incroyable talent, qui s'appelle La Suisse, un incroyable talent. Et il faut dire qu'il a une voix lyrique étonnante et qu'il en joue dans les styles de musique très variés. Donc on vous propose de revivre sa prestation de samedi soir. À vous de voter sur le site de Radio G pour écouter toute la chanson ou la stopper. Voici Nemo sur Radio G. C'était donc la Suisse, apparemment bah, vous aimez puisqu'on n'a pas eu de stop, donc voilà, tout va bien. C'était Nemo, donc le gagnant de l'Eurovision 2024. Vous êtes toujours dans DMT sur Radio G, l'émission qui vous donne les pouvoirs. Rendez-vous sur le site de radio-g.fr sur votre smartphone ou votre ordinateur. Vous pouvez nous parler en direct sur live et le chat. Et maintenant, eh bien, on va écouter encore une petite chronique de Joe. De quoi tu voulais nous parler?
J'ai retrouvé dans mon tiroir une dosette de café. Et ça m'a fait penser à une petite histoire que j'ai entendue récemment. Un homme qui trouvait que son café était pas très très bon.
J'ai très peur. Quand tu commences comme ça.
Non, c'est une petite brève d'actu.
D'accord.
Bah, il savait pas ce qu'il y avait dedans, mais il a trouvé pas très très. Ouais. Il fait tous les jours son café, il trouvait pas très très bon. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous connaissez les bandes pH pour savoir voilà le pH acide. De voilà de d'un liquide. Il l'a plongé dans l'eau du robinet, tout à fait normal. Il l'a plongé dans la machine à café, il y avait un problème. Hein. Donc il a commencé à poser des caméras chez lui sans que sa femme le sache, femme avec qui il était en instance de divorce. Ce militaire qui était pas souvent là.
Non, elle s'est empoisonnée.
Oh bah tout à fait, elle a mis de la javel constamment tous les jours. Sauf que il a des vidéos de tout, de elle qui met dans un pot pour mettre dans la machine à café et non, tu la vois de
la
partout.
Javel. Mais non mais tu vois tout, mais le café était imbuvable.
C'est dilué dans l'eau du café. Oui. Sauf que ça peut t'empoisonner comme ça à long terme.
Bah, très très long terme hein, parce qu'on en met même pour dans l'eau justement pour.
Dans
l'eau de la ville. Dans l'eau de la ville il y en a un petit peu.
C'est très dilué. Mais là, pour le coup, non, elle a vraiment essayé de faire ça. Donc, elle a été jugée récemment.
Super.
Et voilà. Donc, du coup, faites attention quand vous buvez vos cafés.
S'ils sont pas bons, peut-être qu'on veut vous empoisonner.
Exactement.
OK. Bon, allez, on va retrouver le Graal. Mais cette fois-ci, c'est le Graal qui raconte des histoires. Ce soir, c'est un sujet qu'Olivier a soufflé au Graal. Et vous allez voir que c'est vraiment flippant. Le Graal.
Bonjour les humains, je suis une IA et je parcours les archives de l'humanité. Bienvenue dans le Graal de l'Histoire. Étiez-vous né en 1983 ? Sachez qu'il s'en est fallu de peu pour que votre vie soit bien différente, voire même n'avoir jamais existé. Nous sommes dans la nuit du 25 au 26 septembre 1983 dans le village de Kourilov, au sud de Moscou, en Russie, hein, pour les nuls en géographie. Il y a là une base militaire ayant pour rôle de surveiller les tirs de missiles ennemis. Il est minuit 15 quand les alarmes se mettent à sonner. Le système informatique d'alerte antimissile a détecté une attaque. Un missile, non, deux, trois, quatre missiles viennent d'être lancés depuis une base américaine. Il n'y a pas de doute, le satellite Cosmo 1382 est formel. L'officier de garde doit alors analyser la situation. Mais il n'a que quelques minutes. Il doit transmettre l'information, ce qui va déclencher une riposte nucléaire et une guerre destructrice. Mais il a un doute. Pourquoi juste quatre missiles ? Quitte à déclarer la guerre, autant annihiler l'ennemi directement. Et si c'était une erreur informatique ? Il désobéit alors à la procédure et classe l'information comme une fausse alerte. Bien lui en a pris. Un diagnostic a mis en cause le logiciel du satellite qui a interprété des réflexions de lumière comme des missiles qui donc n'avaient jamais existé. En cette nuit de 1983, Stanislav Petrov a sauvé la Terre d'une guerre nucléaire. À bientôt pour un prochain Graal de l'Histoire.
Ah, merci pour tes histoires, Olivier. Hein, c'est flippant tout ça. C'est très flippant. Bon, c'est le Graal de l'Histoire. Retrouvez sur Spotify et sur le site radio-g.fr rubrique podcast plus. Allez, c'est le moment de la chanson improbable. Ah oui, alors c'est un sportif franco-américain né en Belgique. Il a sorti un album en 2007 produit par TF1 et vendu à 50 000 exemplaires. On ne l'attendait pas du tout dans cet exercice. Et c'est donc la chanson improbable de ce soir. Puis du coup, bah, vous allez avoir à deviner de quel interprète il s'agit, donc un sportif.
Ça fait tout drôle. T'étais mon premier love. Mais qu'est-ce qu'on est devenu? T'étais mon premier love. Je crois qu'on évolue dans la vie. Je perds le fil.
On s'est connus, on était gosses, c'était mon premier love. Bien avant le basket, mon premier titre, toujours ensemble. À l'époque, on était croque l'un l'autre. On était jeunes, on était fous, à qui la faute, on était rien sans l'autre. On était simple, on était deux, on pensait un. Un seul amour, un seul avenir, un seul chemin. Et je me rappelle quand je te serrais dans mes bras, tu me disais que t'aimais ça, t'étais au nirvana. Tu m'as rendu meilleur, j'avais un cœur de pierre. De Cupidon, t'étais la flèche, mon cœur était la cible. J'avais pas de thune au départ, pour toi j'aurais décroché la lune sans la fusée. Toujours derrière moi, quoi qu'il arrive, t'étais mon pare-balles, mon porte-bonheur, quoi qu'il arrive. C'était toi et moi à l'infini. Si tu tombes, je tombe, j'étais Clyde, t'étais
Bonnie. Baby, I never lied to you and all I do, I've done it for you all.
ça n'est pas à se concentrer dans mon basket. Notre amour se dissipe, on a grandi si vite, on se prend la tête.
On lui a coupé la chic.
Comment alors, ça, Bruno?
Est-ce que vous l'avez retrouvé? Je suis le maître. Est-ce que vous avez donc retrouvé qui c'était? Je crois que c'est Olivier qui a trouvé en premier.
C'était Tipeee.
Tipeee, yes.
Tipeee. Tony Parker.
Tony Parker, le joueur de basket qui nous parlait de son premier love et dont on se fout complètement.
Royalement.
Bon, reste au basket, hein, Tony. Alors, on va rester dans la musique maintenant avec Radiovision.
Ah, ouais.
Ah, ça te dit quelque chose? Voilà, Olivier aussi, oui. Et Florian aussi, puisque vous êtes jury dans cette émission. C'est une émission de Radio G diffusée sur plusieurs radios. On a parlé donc de l'Eurovision tout à l'heure. Eh bien, on reprend un peu les mêmes mécaniques pour lire la chanson Radiovision de l'année. Alors, il y a 16 participants et vous pouvez voter en ligne sur le site radiovision.fr, pardon. Et donc, ce soir, on va découvrir, les participants avec des extraits de leurs titres. T'as déjà voté, toi, je crois?
J'ai voté, oui.
T'as déjà voté. Olivier, t'as commencé les votes un peu?
Pas écouté, mais.
T'as pas écouté encore?
C'est bien.
Il serait temps, parce qu'on ne vote que jusqu'à fin mai. Hein?
Il me reste 10 jours.
Voilà.
15 jours.
Ok. Eh ben, donc vous pouvez voter aussi de chez vous sur le site radiovision.fr. Et puis on vous donne un petit extrait de ce que va être justement cette grande soirée.
Écouter, là. Oui. Les 16.
Oui, les 16.
J'aimerais tant pouvoir le faire, ce petit saut. Qui passe de mes vieux camarades de classe à la récré, je te cache-cache et au football. Je fais rien de sérieux parce que j'ai peur de grandir. Toute ma vie, je fais que de mentir. Si tu as encore des mains douces et tendres, j'en prendrai beaucoup. Petite fille heureuse, rêvant de liberté, elle invente une berceuse à ses vieux jouets. Des alpinistes de carton, confiants dans leur faiblesse, qu'importe le flocon, pourvu qu'il y ait l'Everest. Regardez en haut, se demander pourquoi.
Tu es surnaturel et de tes mots magiques, c'est toi qui en sorcelle.
Merci madame, je vais faire le tri. Pas dans le tri, c'est interdit. Alors je jette des boîtes, je jette des boîtes, je jette.
Je sais ce que vous dites, ce gars est un tue d'amour. Je sais.
Alors frappe du tout.
Donc vous venez d'écouter les 16 titres qui seront présents pour Radiovision pour la finale qui sera le 15 juin prochain. Donc vous pouvez voter dès maintenant sur le site radiovision.fr. Voilà, c'est gratuit, vous y allez, vous avez la liste, vous pouvez réécouter tous les titres et puis choisir ce que vous voulez. Comme tu dis, il y a des titres que t'aimes bien un petit peu.
Ouais, celui que tu as dit comme ton préféré. Ouais. Moi pour le coup, je l'ai bien aimé, effectivement, il était plus frais et bon, déjà eu quelques idées grâce à Florent de qu'est-ce qui sera Bah là, qu'est-ce qui...
Bah lui, c'est qu'un seul vote, hein.
Oui, mais bon.
Et en plus, le jury, là, si vous votez en ligne, vous votez, ça coûte deux fois plus que les jurys, donc, allez-y.
N'hésitez pas à aller voter.
Tout à fait. Finale, donc, le 15 juin. Allez, pour finir, on va jouer un peu avec les chansons IA. Alors, je vous explique, pour ceux qui connaissent pas, on prend des chansons, d'une chanson connue, hein. On la donne à une intelligence artificielle qui la chante à sa manière. Donc, la voix et la musique sont totalement différentes de l'original. Seules les paroles sont respectées et vous permettent d'en retrouver le vrai interprète. Alors ce soir, c'est un spécial amour, avec des chansons qui parlent d'amour. Donc à vous de retrouver...
Tony Parker, mon first love.
Ouais, non, il va pas y être. À vous de retrouver l'interprète original et le titre de la chanson.
Il n'y a pas de traduction.
Non, il n'y a pas de traduction, français, ils sont tous en français.
Ah, okay.
C'est tous des chansons ultra connues.
Ouais.
Et donc, voilà, il faut trouver le vrai interprète. Et on attend vos réponses sur le chat, bien sûr, de radio-g.fr. Premier.
Pour l'amour, dis-moi à quoi tu penses. Si tout ça a un sens, désolé si je te dérange, mon amour. Te souviens-tu de nous, du premier?
Alors, est-ce que vous avez une idée ?
Slimane, non.
Ben si, c'est Slimane. Ah, si. C'est Slimane avec Je t'aime. Allez, attention, un peu plus ancien, deuxième titre.
D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, on a souvent te réclamé. Reste comme une mère, tu me bordais me protéger. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots de rêve, je vais crier. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma.
Bravo, bravo.
Allez, il a fallu attendre le refrain quand même. Hein. Donc vous l'aviez retrouvé, peut-être chez vous. Florian, c'était
Lara Fabian.
Lara Fabian avec Je t'aime.
Et voilà. Jonathan les a aussi sur le chat.
Et Jonathan les a, c'est bien, ouais, très
il
bien.
Slimane, il vient d'avoir la.
Il les a juste après qu'on les dit. Alors.
Donc vous pouvez trouver. Donc vous pouvez jouer avec nous sur le chat, bien sûr. Je vous rappelle que ce sont des chansons. On a pris le texte original, on l'a pas changé, et c'est une IA qui la chante. Donc c'est pas la bonne voix, c'est pas la bonne musique, et il faut retrouver la chanson originale. Attention, là encore plus ancien. C'est parti.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Mon amour, puisque tu m'aimes, j'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferai ta dent blonde si tu me le demandes.
Alors c'est bon, est-ce que le chat ils avaient trouvé ou pas? C'est plus dur
non,
celui-là.
Je crois pas qu'il ait Ah, il a dit pas mal cette version, donc peut-être qu'il l'avait.
C'était Édith Piaf avec
Hymne à l'amour.
Hymne à l'amour, évidemment. Allez, on reparle d'amour, c'est reparti. Alors, ça dépote, c'est pas du tout.
C'est vrai que c'est
aimé.
Comme les flots, c'est bien. Elle va durer beaucoup moins de temps.
C'était donc.
Ça va, c'est Damien Sargue.
Oui.
Roméo et Juliette.
Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. Voilà. Allez, attention, on parle toujours d'amour, c'est parti.
À faire pâlir tous les marquis de Sade, à faire rougir les putains de l'Arabe, à faire crier par ça tous les échos. À faire trembler mes murs de Jéricho, je vais t'aimer, à faire flamber des enfers dans tes yeux, à faire jurer tous les tonnerres de Dieu, à faire dresser tes saints et tous les saints, à faire prier, supplier nos mains, je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé, je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer.
Bon ben voilà, alors celle-là vous l'avez trouvée,
oui, Michel Sardou.
Michel Sardou,
retrouvez-la les... sur Dimanche Bonheur.
Hein. C'est ça, dès les premières, etc. Attention, niveau un petit peu plus élevé et on parle d'amour encore.
Quand on a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage, que notre grand amour
Allez, un petit thé donc. Jacques Brel avec Antoine Clamour. Et un très difficile maintenant, le petit dernier.
Toi qui sais ce qu'est un rempart, tu avances sous les regards courroucés, tu écris mais sur le buvard. Tous les mots se sont inversés. Si tu parles, il te faut savoir que ceux qui lancent des regards courroucés ne voudront voir dans leur miroir que ce qui peut les arranger. Toi qui as brisé la glace, c'est que rien ne remplace la vérité et qu'il n'y a que deux races, ou les faux ou les vrais. L'amour te porte dans tes efforts, l'amour de tout délit et secret, et face à tout ce qui te dévore, aimer est plus fort que d'être aimé. Toi qui sais ce qu'est le blasphème, on ne récolte pas toujours ce qu'on sait.
C'était fort, mais il l'a trouvé tout de suite, Florian.
Trop fort.
Ouais, trop fort, ouais. Donc c'était
Balavoine.
Daniel Balavoine avec Aimé est plus fort que tout. Bravo, très
non,
très pire.
Plus fort que d'être aimé.
D'être aimé.
Bon, oh, d'accord.
Ok. Allez, c'est la fin de ce numéro de Dans mon tiroir, l'émission qui vous donne le pouvoir. Voilà. Merci aux chroniqueurs du soir. Merci Olivier.
Merci.
Merci Sandra.
Merci.
Merci Joe.
Merci.
Merci Florian.
Merci.
On va se quitter avec notre chanson de fin, comme d'habitude. Et on se retrouve quand vous voulez sur le site radio-g.fr. Et n'oubliez pas, avec Dans mon tiroir, vous avez le
pouvoir.
Vous venez d'écouter DMT, une émission de Radio G. Pendant une heure, vous avez pu voter et même chatter. C'est fini pour aujourd'hui, mais il y aura d'autres mardis. N'ayez pas trop de peine, on se retrouve dans deux semaines. Ce soir les chroniqueurs ont vraiment tous eu peur que vous actionniez le buzzer pour leur plus grand malheur. Mais c'est fini pour aujourd'hui, mais il y aura d'autres mardis. N'ayez pas trop de peine, on se retrouve dans deux semaines. À bientôt sur Radio G, en direct ou en différé, en podcast ou en FM, on fait comme on aime. Alors oui, c'est fini pour aujourd'hui, mais il y aura d'autres mardis. N'ayez pas trop de peine, on se retrouve dans deux semaines.